Dans la nature, les animaux chassent, broutent et pêchent pour se nourrir. Ça, c'est dans la nature, mais l'humain, lui, élève, cultive et en plus, il va au supermarché.
Et une manière de s'alimenter qui a un impact crucial sur notre environnement. Le paysage est transformé pour produire les aliments, de l'énergie est dépensée pour les transporter, les préparer, les vendre. Et toute cette activité influence profondément nos sociétés.
Comment notre système agroalimentaire évolue-t-il pour répondre à nos besoins environnementaux ou pour en créer de nouveaux? C'est ce dont nous allons parler avec notre invité, Jérémy Fornet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, vous enseignez actuellement à l'Université de Neuchâtel. Vos spécialités, c'est donc l'agriculture et les systèmes alimentaires. Depuis quelques années, on assiste au boom des labels environnementaux dans les supermarchés. Oui, le bio, le produit de la région, les produits Karma, Slow Food, etc. etc. C'est une vraie prise de conscience verte ou bien c'est juste du marketing ?
Ah, c'est peut-être les deux. dans le sens que, on n'est pas dans le mouvement feu de paille, hein, c'est quelque chose qui a émergé quand même longtemps, avec les naissances des mouvements bio déjà au début du XXe siècle, mais c'est quelque chose qui s'est accéléré. On le lit souvent avec les grandes crises de sécurité alimentaire qu'on a connues dans les années 90, la crise de la vache folle, tout le monde s'en souvient, mais il y en a eu d'autres aussi. Plus récemment, les lasagnes au cheval en sont un autre exemple. C'est-à-dire tout d'un coup une méfiance dans le monstre, entre guillemets, qu'on avait créé à travers notre système alimentaire assez industrialisé, avec très peu de traçabilité, et finalement sans trop savoir ce qu'on mange. Et savoir ce qu'on mange, c'est ce qu'on ingurgite, c'est quelque chose fondamentalement anxiogène, on pourrait dire, aussi essentiel dans la manière dont on construit nos identités. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait toute cette effervescence autour de notre alimentation.
Et quel rôle justement jouent tous ces labels pour les supermarchés ?
Alors, c'est peut-être tout d'abord donner une forme de réponse à cette anxiété, c'est s'adapter à ne pas risquer, mettons, de perdre une partie de la clientèle qui se méfierait du supermarché comme zone de la nourriture anonyme, finalement. Donc c'est remettre de l'identité, remettre une forme de certitude dans qu'est-ce qu'on va manger, en tout cas essayer, je pense que c'est ça avant tout, c'est soigner un peu son image, un peu quand même aussi se rendre compte que tout le monde est gagnant si certaines choses sont mises sur le papier, sont mises au clair. Maintenant, un label, ça répond à ce que ça promet finalement. Et il y a là peut-être où les supermarchés jouent le double jeu du marketing, c'est-à-dire c'est dans qu'est-ce qu'on promet d'un côté et quelle est l'image qu'on vend d'un autre côté. Et finalement, là, c'est des fois, les zones de transition sont un peu floues, on pourrait dire.
Oui, alors justement, ces labels qui ont tendance à être tous mis dans le même panier vert, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui désigne quoi, qu'est-ce qui est vraiment écologique ou pas. Si on va dans un supermarché, on a parfois l'impression, selon les messages qui nous sont transmis, que l'on fait le même geste que lorsque l'on va chez le primaire d'à côté. On a de la peine à savoir comment être réellement écologiste aujourd'hui dans ces achats.
Oui, c'est un vrai problème, je pense, que beaucoup de consommateurs rencontrent, surtout ceux qui veulent avoir cette sensibilité-là. Et finalement, la multitude du choix, mais aussi l'immense... Encore une fois, j'en reviens sur l'immense complexité d'où provient cette alimentation. C'est un secteur économique extrêmement globalisé, on le sait bien. Il y a de plus en plus de messages un peu contradictoires, quelque part, qui nous parviennent en tant que consommateurs. À la fois, il faut manger local, parce qu'on sait que, voilà, quand on transporte quelque chose, on brûle du pétrole pour le faire, donc c'est pas bien. Mais maintenant, on découvre tout d'un coup qu'une pomme au mois de juillet, par exemple, on a peut-être meilleur temps de la faire traverser la planète entière en tout cas pour ce qui concerne le CO2, que de la manger locale, parce qu'elle a été conservée dans un frigo qui consomme énormément d'énergie pendant toute une année, pratiquement. Donc on voit bien que le sentiment de perte, c'est pas une erreur de fonctionnement, c'est que tout cela est très complexe. Et finalement, qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'on priorise le fait de ne pas utiliser des pesticides, par exemple, avec les labels bio, ou est-ce qu'on priorise le fait qu'on soutient une économie locale, on limite les transports et là on est dans le local? On peut essayer de faire les deux, maintenant pas toujours, et après il y a la question de la saison, et derrière tout ça aussi, ce qui rend extrêmement difficile, c'est qu'on a une diète, un régime qui est complètement, comment dire, construit autour de l'accessibilité à finalement à n'importe quoi, n'importe quand. Et ben finalement, on se rend bien compte que c'est là quelque part que le début, quel début du problème, c'est qu'est-ce qu'on veut manger, à quel moment, à quoi on s'est habitué, à quoi, qu'est-ce qu'on a besoin aussi dans nos idéaux de santé, parce que ça c'est un autre point qu'on n'a pas évoqué. S'il faut manger 5 légumes frais par, ou fruits par jour, enfin, vous êtes au mois de mars par exemple, ou de février, ben, les légumes frais, ben,
du chou, du chou et encore du chou,
de la carotte, et c'est à peu près tout si vous voulez manger local. Ben, on se rend bien compte que là, on est dans une série de tensions qui transparaît pour nous dans nos actes de consommation, ou même si on est le mieux intentionné possible, on se rend compte que c'est des fois très difficile à résoudre.
Ces labels, ils sont destinés à se multiplier. Est-ce qu'on trouvera un jour un label qui tienne compte de tout? La saison, la méthode de culture, le commerce équitable, c'est local, etc., etc.
Bah, je j'attends pour voir. Ça serait intéressant de voir qu'on essaye de le faire. Maintenant, comme on l'a vu, c'est toujours extrêmement complexe. Donc, un label qui tiendrait vraiment compte de tout, je lui donne très peu de chances d'émerger, parce que c'est, du coup, qu'est-ce qu'on peut labelliser? Il faut quand même un marché. Il faut quand même quelque chose à vendre avec ce label-là. C'est une chose, créer un label. Un label, c'est avant tout lié à un marché. Et comme je l'ai dit, c'est lié à une série de promesses. Alors, des labels qui prétendent un peu vendre le tout, il y en a sûrement. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on, à travers le processus de certification qui est lié au label, ben on a une liste, une checklist quelque part de choses qui sont respectées, et c'est vraiment que ça qu'on promet. Et le consommateur quelque part, il peut se sentir floué s'il a l'impression que, mettons, il achète, il voit des, ben c'est une réaction qu'on a souvent chez les consommateurs, disons sensibles à ce genre d'arguments, voir des fraises bio qui viennent d'Espagne au mois de février, mettons, quelque chose comme ça. On dit il y a une incohérence, mais en fait ce label bio, qu'est-ce qu'il promet? Il promet juste qu'on va pas utiliser de pesticides, essentiellement, plus des choses autour. Ça dépend encore quel label bio aussi, en plus chacun a sa liste propre. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est que je sais plus trop.
c'est qu'on est tous
un peu perdus face à ça.
Ça sème beaucoup de confusion. Alors, on va faire une petite pause musicale pour y réfléchir, et on revient pour parler justement de tous ces modèles alternatifs de supermarchés qui se développent, peut-être pour répondre à certaines de ces interrogations. C'est avec vous, Jérémy Formenet.
À 3, c'est plus sympa. Format à 3.
Et nous sommes avec l'ethnologue Jérémy Fournet. On s'intéresse à comment notre consommation de produits alimentaires s'adapte aux contraintes environnementales.
La plupart des achats alimentaires se font aujourd'hui au supermarché, mais il existe aussi d'autres solutions comme les jardins potagers, les marchés d'agriculteurs, les paniers livrés. Jérémy Fournet, comment est-ce que vont se développer ces alternatives ?
Alors, en tout cas, comment elles vont se développer à long terme, c'est très difficile de prévoir, mais comment elles se développent actuellement et vont continuer de le faire, je pense, dans les prochaines années, c'est quand même dans justement le développement, la croissance, ça c'est clair. Si on prend l'agriculture contractuelle de proximité, que je connais un peu plus directement parce qu'on a un doctorant à l'Institut d'ethnologie, Julien Vieumier, qui fait sa thèse sur ce sujet-là, notamment à Neuchâtel, mais dans d'autres régions de Suisse romande aussi, on constate depuis le début des années 2000 une explosion d'un phénomène qui était extrêmement, mineur, enfin qui est très très localisé, notamment on a des origines historiques à Genève par exemple avec les jardins de Cocagne, mais aujourd'hui ça a explosé, on a des dizaines et des dizaines d'initiatives qui se sont développées en Suisse romande, en Suisse alémanique aussi, donc on voit que ça se multiplie, c'est pas des choses qui grandissent et deviennent immenses, parce que c'est contre leur manière de fonctionner quelque part. Au bout d'un moment, quand on veut être dans la proximité, dans le direct, on peut pas être 12 000. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a d'autres qui émergent à côté pour répondre à un besoin, semble-t-il, et je pense que ça va continuer, mais dans aussi une diversification. On voit que maintenant, il y a des gens qui s'inspirent de ces modèles-là pour mettre en place des sites de vente online qui finalement promettent plus vraiment les mêmes choses que l'agriculture contractuelle de proximité typique, qui elle promet cette relation directe, cette solidarité entre producteurs et consommateurs, le fait que ça soit forcément local, le fait que, comment dire, qu'il y ait un engagement sur le long terme aussi, un partenariat entre consommateurs et producteurs sur un contrat d'une année, c'est le principe de base. Ces choses-là qui sont des fortes contraintes en tant que consommateur, ben des fois elles sont un peu mises de côté pour offrir des alternatives un peu entre deux, comme ça, mais on voit qu'il y a une émergence, il y a une effervescence quand même ici dans la manière de consommer, même si je me fais pas du tout de soucis pour Coop et Migros, je pense que
leur avenir est assuré.
Leur avenir est encore assuré pour de longues années, oui, tout à fait.
Jérémy Fournet, vous avez fait des études de terrain en Nouvelle-Zélande, un pays qui est extrêmement libéral. Ça se passe complètement différemment de chez nous, au niveau de la multiplication des labels.
Alors, on a quand même une particularité en Suisse, on a une grande richesse de ce côté-là dans les labels, une grande force sur les marchés aussi. Je pense que c'est moins le cas en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être lié aussi au pouvoir d'achat des consommateurs moyens. C'est aussi lié à une culture de l'alimentaire différente. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays anglo-saxon, colonial, mais vraiment de culture anglo-saxonne, où on a l'habitude de ce qu'on appelle la junk food. Hein, le plat national, c'est le fish and chips. Alors la fondue, peut-être diététiquement, c'est pas vraiment meilleur, mais on s'est beaucoup plus centré dans une culture alimentaire, racine dans un terroir. On peut dire, on est un peu plus proche des Français quelque part que des Anglais de ce côté-là, on pourrait dire ça. Ça, c'est une chose. Par contre, ça a joué un rôle très important dans comment l'agriculture a évolué dans ce pays-là, mais un peu à travers les marchés européens, justement, qui sont les marchés qui ont connu les développements majeurs des labels et des soucis environnementaux du consommateur, finalement. Parce que c'est un pays exportateur, 95% à peu près de sa production est exportée, et donc c'est pas par des politiques nationales quelque part que l'environnement a frappé l'agriculture néo-zélandaise, mais c'est par sa connexion avec des marchés européens notamment. Donc oui, c'est assez intéressant à regarder.
Est-ce que vous vous attendiez encore à de grands bouleversements du système
alimentaire dans l'ensemble, vous, dans son
pays?
Oui. mais lesquels alors lesquels, il y en a quand même quelques-uns qui sont évoqués, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, mais le changement climatique, c'est un thème qui est assez à la mode. Moi j'en sais rien, qu'est-ce que ça va donner comme effet spécial, mais c'est clair que notre production alimentaire est complètement liée au climat, comme il l'est aux autres ressources naturelles, comme il l'est aux ressources énergétiques non renouvelables. Peut-être malheureusement, on a quand même un système alimentaire qui repose sur la consommation massive de pétrole, pas seulement à travers les tracteurs, hein, c'est tout de suite, on a l'image des machines qui brûlent directement le pétrole, mais non, les engrais qu'on utilise, même la production de semences, la circulation de l'alimentation, après la transformation des produits, tout ça, ça demande énormément d'énergie qui dépend souvent quand même encore des énergies non renouvelables. Donc quand on parle de peak oil, par exemple, quand on parle de changement climatique, tous ces grands... grand défi quelque part que l'humanité semble-t-il devra affronter un jour ou l'autre, ben ça touchera, ça révolutionnera certainement notre système alimentaire aussi.
Donc il y aura encore matière à étudier pendant très longues années, je crois. Jérémy Fournet, merci beaucoup d'être venu participer à notre émission ce matin.
Mais merci à vous.
On mettra les informations et l'interview sur notre site tout à l'heure et on vous souhaite une très belle journée.
Une bonne journée à vous, merci.
Format 3 s'en va pour aujourd'hui, mais comptez sur nous pour être présents demain sur le coup de 8h10. À bientôt.
À demain.
À 3, c'est plus sympa. Format à 3.